RFI, c'est le journal d'Haïti et des Amériques avec vous. Michael Ponge, bonjour.
Bonjour François, merci. Il est 8h10 à Washington. La capitale fédérale des États-Unis en bleu, blanc, rouge à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron. On va revenir aussi aujourd'hui avec notre invité sur l'un des enseignements des élections américaines de mi-mandat de début novembre. C'est la contre-performance enregistrée par les démocrates dans l'État de New York. Et puis, les footballeurs argentins et mexicains sur les terrains du Mondial au Qatar. Ce sera juste avant de vous retrouver, vous, Benoît Ferrand, pour le journal de la première. On sera en Martinique aujourd'hui.
Avec la fin du cru 2022 de l'opération Déposer les armes, ce sera ce vendredi.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît, et bienvenue à tous.
Radio France International.
La Marseillaise hier soir pour accueillir à la descente de leur avion Emmanuel et Brigitte Macron à Washington. Le couple présidentiel français qui entame ce mercredi une visite d'État de 2 jours aux États-Unis. C'est le plus haut niveau protocolaire et c'est la première visite d'État jamais organisée par l'administration Biden. Le département d'État justifie ce choix par le statut de la France aux yeux des Américains. Écoutez John Kirby du Conseil à la Sécurité nationale.
L'un des véritables piliers de l'approche du président Biden en matière de politique étrangère et du monde qui nous entoure est la force et le pouvoir des alliances. Et nos alliances, le réseau d'alliances américaines, c'est quelque chose qu'aucune autre nation au monde ne peut égaler. La France est notre plus ancien allié. Et si vous regardez ce qui se passe en Ukraine, si vous regardez ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique et les tensions avec la Chine, la France est vraiment au centre de toutes ces choses. Et le président Macron a été un leader dynamique au sein du G7, en particulier là-bas en Europe. Donc le président a estimé que c'était exactement le bon pays, le plus approprié pour commencer les visites d'État.
Voilà, histoire aussi peut-être d'arrondir les angles hein, après la brouille liée à l'affaire des sous-marins de l'an dernier, ce contrat avec l'Australie, chippé par les Américains aux Français. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Pas de gros titres encore ce matin sur cette visite, Arim, mais tout de même quelques articles qui analysent ces relations entre Paris et Washington.
Oui, à commencer par celle entre les deux présidents qui sont excellents, en tout cas excellentes, en tout cas selon une anecdote rapportée par le site de la chaîne CNN. Lors d'une réunion en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé pendant 45 minutes alors que leur conseiller avait planifié à peine 10 minutes. La guerre en Ukraine a rapproché les deux pays, explique CNN. Selon le New York Times, cette visite d'État marque effectivement le retour de la relation transatlantique comme le pivot de la stratégie américaine dans le monde. Pour l'instant, ajoute le journal, le président français reste le meilleur interlocuteur européen des États-Unis. Le Royaume-Uni s'est marginalisé avec le Brexit et le chancelier allemand Olaf Scholz n'a pas encore atteint cette autorité européenne dont bénéficiait Angela Merkel.
Et on analysera cette visite d'État plus en détail demain avec notre invité. En attendant, Arim, ce qui fait la une aux États-Unis, c'est le verdict inédit prononcé hier contre 2 anciens membres des Oath Keepers, milice d'extrême droite.
Oui, le fondateur Stuart Rhodes et une autre personne ont été reconnus coupables de sédition. Ils ont participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Écoutez l'avocat de Stuart Rhodes.
We're disappointed. With the guilty verdict.
Nous sommes déçus. Nous trouvons que nous avons présenté une défense qui a montré par des preuves et des témoignages que M. Rhodes n'avait pas commis le crime de conspiration séditieuse. Aucune preuve n'a été présentée qui indiquerait qu'il y avait un plan pour attaquer le Capitole.
Voilà, donc l'avocat Ted Tarpley, l'avocat de Stuart Rhodes. Selon le journal en ligne Daily Beast, ce verdict représente en tout cas une victoire pour les procureurs qui enquêtent depuis bientôt 2 ans sur l'attaque du Capitole. Daily Beast, Michael, relève aussi la réaction surprenante des proches de Stuart Rhodes qui se félicitent de la décision de justice. Son épouse, par exemple, se dit heureuse que son mari, pour la première fois dans sa vie, doivent assumer les conséquences de ses actes. Et son fils a tweeté en anticipation de la peine qui sera prononcée seulement au printemps de l'année prochaine. « Happy New Year to you in jail », qu'on peut traduire, Michael, « meilleurs vœux pour toi pour l'année prochaine et ça sera en prison
». C'est donc la première fois que des condamnations pour sédition dans ce dossier du Capitole sont prononcées pendant ce temps du côté du Sénat.
Sir, 61, the nays are 36. The bill has passed.
What a great day.
61 voix contre 36. Les élus de la Chambre haute ont voté hier soir un texte pour protéger le mariage gay à travers tous les États-Unis, par crainte d'un possible retour en arrière de la Cour suprême, comme on l'avait vu cet été avec l'avortement. Une fois adopté par la Chambre des représentants, Joe Biden n'aura plus qu'à promulguer cette loi.
Now, Mr. President. Monsieur
le Président, pour des millions d'Américains, aujourd'hui est un très bon jour, un jour important, un jour qui a mis longtemps à venir. Le Sénat adopte aujourd'hui la loi sur le respect du mariage, longue mais inexorable marche vers une plus grande égalité.
Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ce Sénat des États-Unis qui attend toujours de connaître sa composition définitive. Pour cela, il faut encore que la Géorgie revote la semaine prochaine. Le premier tour, lors du 8 novembre dernier, n'avait pas suffi à départager les candidats. Ces midterms, lors desquels il n'y a pas eu de vague rouge, en tout cas au niveau fédéral, car en y regardant de plus près, une vague républicaine a bien balayé l'un des États démocrates par excellence, celui de New York. C'était une nuit terrible à New York, déclaré peu après un stratège du parti à la presse. Et cela n'est sans doute pas sans conséquences nationales. Alors, quels enseignements en tirer? Pour en parler, nous sommes en ligne avec quelqu'un qui connaît bien cet État. Bonjour Antoine Yoshinaka.
Bonjour.
Et pour cause, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York à Buffalo. 3 semaines après ces élections de mi-mandat, quel tableau peut-on dresser rapidement dans les grandes lignes pour nos auditeurs qui n'ont pas les yeux sur les cartes de ces résultats donc dans cet État de New York?
Oui, écoutez, très brièvement, tout simplement, si les Républicains ont remporté la majorité à la Chambre des représentants, c'est grâce à leur récolte exceptionnelle de sièges à New York. Ils ont remporté 11 sièges sur les 26 qui étaient en jeu dans un État, disons-le, généralement favorable aux démocrates. Et pour y arriver, ils ont remporté 6 sièges dans des circonscriptions qui ont voté en faveur de Joe Biden, le président démocrate, en 2020. Donc, si les démocrates avaient été en mesure de remporter les sièges qui avaient appuyé Joe Biden, ils auraient été en mesure de maintenir leur statut de majorité à la Chambre.
Donc, c'est à cause de New York, vous nous dites, la coloration à présent républicaine de la Chambre des représentants. Il y a évidemment à cela plusieurs explications à ce qu'on peut appeler une contre-performance. La première, dit-on, tient au redécoupage électoral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et en quoi, eh bien, cela a servi les républicains?
Oui, absolument. Ce fut un facteur crucial. Il faut dire qu'initialement, c'était les démocrates qui avaient redécoupé la carte électorale d'une manière favorable à leur parti. Or, cette carte avait été invalidée par une cour d'appel à New York. Et cette cour d'appel avait donc embauché un expert pour redécouper la carte électorale de manière neutre sur le plan partisan. C'était son mandat. Et or, qui dit neutre sur le plan partisan lors d'une élection de mi-mandat, dit une carte qui peut favoriser essentiellement le parti qui est opposé à celui de la Maison-Blanche. Donc, c'est vraiment en raison de ce redécoupage que la carte électorale aurait été un peu plus favorable en faveur, justement, pour les républicains. Et les républicains ont réussi à remporter un grand nombre de sièges qu'ils n'auraient pas été en mesure de remporter si le redécoupage initial entériné par les démocrates avait été celui qui avait été entériné.
Donc ça, c'est une première explication. Autre explication, peut-être, les thèmes de campagne qui n'ont pas été forcément les bons défendus par les démocrates. On parle beaucoup notamment de la sécurité, de la criminalité. C'est une question, par exemple, qui a bien failli coûter son poste de gouverneur de l'État de New York aux démocrates.
Oui, tout à fait. Écoutez, à New York et surtout près de à la ville de New York et dans les banlieues de New York, on est bombardé de nouvelles tous les jours sur les actes criminels violents commis dans la ville de New York. Et ce n'est pas un hasard que c'est justement dans les banlieues de la métropole de New York c'est dans ces banlieues-là que les candidats républicains ont très bien performé et raflé un bon nombre de sièges. Et comme vous l'avez mentionné, la gouverneure sortante, Kathy Hochul, une démocrate, qui, oui, a été réélue, mais quand même avec une marge un peu plus serrée que d'habitude, elle avait été perçue comme étant, disons, un peu... pour n'avoir pas mis assez l'accent sur cet enjeu.
Est-ce que ça veut dire aussi, Antoine Yoshinaka, qu'en parlant de ces thèmes, les candidats républicains ont su séduire un électorat, certaines minorités que l'on disait autrefois attribuées quasiment d'office aux démocrates?
Oui, écoutez, on n'a pas encore assez de données là, pour l'instant pour conclure quoi que ce soit à ce sujet, mais il est clair que les démocrates ne peuvent pas prendre cet électorat pour acquis. Depuis plusieurs années, on voit que les républicains font des percées parmi certains électeurs non blancs, par exemple les latinos, par exemple les Américains d'origine asiatique. Et évidemment, à New York et dans les banlieues de New York, il y a beaucoup d'électeurs qui s'identifient justement à ces minorités ethniques et raciales. Et donc, les républicains continuent de faire quelques petites percées parmi cet électorat.
Alexandria Ocasio-Cortez, une figure démocrate qui a été réélue, a imputé aussi cette contre-performance à la machine, à la grosse machinerie du parti démocrate, selon elle, qui mépriserait les élus progressistes dont elle fait partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'on est là face à une scission encore un peu plus grande entre ces deux franges démocrates?
Je dirais que ce genre de friction, si vous voulez, entre disons la frange plus progressiste et la frange plus disons là centriste, elle a toujours existé à New York parce que bon, vous avez toujours les élus issus de milieux plus urbains et ceux provenant des banlieues, des endroits plus ruraux, et ça souvent il y a un certain conflit. Ça continue de se manifester. Je crois que pour le bien du Parti démocrate, il faut arriver à se trouver un genre de terrain d'entente pour être en mesure justement de mobiliser toutes ces factions sans les mettre à dos. Et ça, c'est vraiment le défi chez les démocrates. Qui, rappelons-le, les démocrates, c'est une coalition très diversifiée au plan démographique et idéologique. Et finalement, il y a aussi une question de conflit générationnel. Vous savez, Mme Ocasio-Cortez, elle représente une plus jeune génération, plus militante, plus progressiste, qui veut prendre plus de place au sein du leadership du parti. Et je pense que c'est ça qui se manifeste un peu dans ses propos.
Et qui considère que les caciques du parti, eux, sont trop éloignés des préoccupations des électeurs, qu'ils ne sont pas assez investis en tant que tels sur le terrain et dans les circonscriptions.
Oui, c'est ça, c'est ça un peu son point de vue, c'est que le parti n'arrive pas à mobiliser les électeurs plus progressistes, les plus jeunes, plus militants, qu'on a une position trop centriste sur les sujets, sur des enjeux qui font en sorte que ça démobilise, si vous voulez, un électorat qui autrement voterait pour le Parti démocrate.
Alors, dernière question, pour résumer un petit peu tout ça, Antoine Yoshinaka, pardon, quels enseignements les démocrates doivent tirer de ce qui s'est passé dans cet État de New York pour la prochaine échéance, c'est-à-dire 2024?
Oui, écoutez, je pense que à New York, le spectre de Trump, il était plutôt non existant. Les candidats trumpistes, il n'y en avait pas. Et l'effet mobilisateur de l'avortement, ça n'a pas été vraiment un gros enjeu parce que, bon, à New York, l'avortement est bien protégé. Je pense que dans ce cas-là, les dynamiques qu'on dit plus normales en temps électoral vont continuer de se manifester. Et qui dit dynamique normale dit l'économie, la popularité du président, des enjeux comme la criminalité. Et donc, on doit se rappeler chez les démocrates qu'il faut continuer de travailler pour justement tenter de faire remonter la cote de popularité de Joe Biden, ainsi que de faire diminuer l'inflation, parce que c'est ça, ultimement, les enjeux qui vont être importants en 2024.
Voilà, on aura le temps et l'occasion, j'en suis sûr, d'en reparler ensemble. Antoine Yoshinaka de l'Université de l'État de New York, en direct avec nous de Buffalo. Merci beaucoup pour votre éclairage.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
8h23, Port-au-Prince, à Rimlipold, on vous retrouve avec des témoignages rares recueillis par nos confrères haïtiens. Daï Bopost, parole de ceux qui vivent sous l'emprise des gangs en Haïti.
Oui, le journal d'investigation Michael relate la tragédie d'un couple qui vivait à Cité Doudoune, dans la commune de Croix-des-Bouquets, c'est dans la banlieue est de Port-au-Prince. Un quartier contrôlé par le gang 400 Marozo. Gilbert Bénard et Rosène Gélin étaient surnommés le couple amoureux. Ils allaient célébrer 27 ans de vie commune l'année prochaine. Mais leur destin a brutalement changé le 13 novembre dernier. Des hommes armés et cagoulés s'introduisent dans leur maison, les enlèvent et menacent de les tuer s'ils ne leur livrent pas leur fils, Hernandez Bernard, accusé par le chef de gang d'être un espion et d'avoir donné des informations à la police. Les parents refusent de dire où se trouve leur fils. Et moins d'une dizaine de minutes après leur capture, raconte un témoin, ils sont tués et leur corps brûlé.
Et depuis, le fils vit caché comme le reste de la famille. Une histoire à rime qui nous prouve que malgré ses efforts, la police haïtienne ne parvient pas à reprendre le contrôle des quartiers où sévissent les gangs.
Oui, une journaliste américaine a récemment accompagné la police haïtienne lors de ses patrouilles à Port-au-Prince. Son reportage est à lire dans le New York Times. Le chef de la police, Franz Elbe, qualifie la récente offensive de ses troupes contre les gangs armés de succès. C'est un signe d'espoir, dit-il à la journaliste du New York Times, un espoir qui visiblement n'est pas partagée par la population qui continue de fuir le pays. Et justement, cette migration inquiète fortement le grand voisin au nord, les États-Unis. Du coup, certains responsables américains sont en faveur d'une force d'intervention en Haïti afin de stabiliser le pays, mais sans impliquer les États-Unis eux-mêmes dans cette opération. Et qu'en pensent les Haïtiens? Le New York Times a recueilli plusieurs témoignages, dont celui du docteur Morquette, qui vit désormais à l'hôpital, car le trajet, dit-il, vers son domicile est devenu trop dangereux. « Je n'aime pas les interventions étrangères, mais c'est une question de survie, dit-il. Nous n'avons plus d'autre option. »
Harim Lippold pour La Presse, merci beaucoup. Un petit tour au Qatar avant de terminer. L'Argentine a quitté tout double, revigoré par sa victoire contre le Mexique. L'Albi Céleste joue son dernier match de groupe ce mercredi au Mondial de foot. C'est contre la Pologne. 3 points au compteur pour les coéquipiers de Messi. Une victoire leur est fortement conseillée donc pour accéder au 8e. L'équipe qui s'est ressaisie après la défaite inaugurale contre les Saoudiens, assure le défenseur Lisandro Martinez.
C'est la Coupe du Monde, tout se joue à rien, sur des détails. Léo a débloqué le dernier match, mais sinon c'était très serré. Maintenant nous savons que nous pouvons mieux faire, nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau, mais nous essayons d'y arriver. La Pologne est un adversaire très coriace, solide défensivement et redoutable en contre-attaque. Nous devrons tirer au but à chaque fois que nous en aurons l'occasion. Nous avons une grande équipe de grands joueurs, énormément de potentiel, nous le savons, mais c'est la Coupe du Monde et toutes les équipes sont difficiles à jouer.
Pologne-Argentine, coup d'envoi à 19h, temps universel.
Le journal de l'Outre-mer.
Et bien sûr, c'est avec vous, Benoît Ferrand, et on parle du cru 2022 de l'opération Déposer les armes qui s'achève vendredi en Martinique.
Créée en 2014, l'initiative a connu et connaît encore un succès qu'on va qualifier de relatif, ce qui n'empêche pas ses inspirateurs d'y croire encore et toujours. Écoutez d'ailleurs à ce sujet Aurélien Adamski, c'est le chef du bureau de la prévention et de l'ordre public. Il est au micro de Corinne Jean-Joseph.
C'est un dispositif qui a tout son sens, oui, parce qu'on le voit depuis 2014, il n'y avait que 2000 armes qui ont été récupérées par les services de l'État, donc c'est une circulation qui est moindre, du coup, des armes à feu. Il y a aussi, je pense, une prise de conscience. On a déployé des affiches avec un jeune lauréat et qui permet d'éviter la banalisation de la circulation ou de la possession d'armes à feu.
Les armes que vous avez récoltées cette année sont nettement moins importantes que celles que vous avez pu récolter les années précédentes.
Toute arme qui est sortie du circuit ou qui est régularisée, c'est une victoire. Ça permet à lutter contre l'insécurité. Puis aussi aux personnes, au bon père de famille, à la personne qui a hérité d'une arme de chasse, etc., de se mettre à jour de la réglementation, puisque le 1er janvier 2023, il y aura l'obligation d'inscrire toutes les armes dans le SIA, donc c'est le système d'information des armes, et tous les détenteurs d'armes devront s'inscrire sur ce fichier. À défaut, les services de l'État pourront ensuite saisir ces armes-là et les récupérer.
Direction la Guadeloupe avec cette enquête consacrée à la mobilité, enquête du Conseil régional, enquête réalisée en 2020 et 2021. Résultat sans ambiguïté, il y a encore du travail à faire pour convertir la Guadeloupe aux mobilités dites douces. Peggy Robert.
Sans surprise, la voiture est reine en Guadeloupe, c'est même une impératrice. Les 3/4 des déplacements se font en voiture et surtout, c'est elle que l'on privilégie pour les déplacements de plus d'un kilomètre. En moyenne, on prend sa voiture pour parcourir 8 kilomètres. Sur la journée, on en fait 30 et on reste au volant 1h30 par jour en moyenne. En revanche, là c'est plus surprenant, le deuxième mode de transport privilégié en Guadeloupe, c'est la marche. 16% des déplacements se font à pied. On marche en moyenne 17 minutes pour parcourir un peu moins d'un kilomètre. Et loin derrière, en troisième position, on trouve les transports en commun. 7% des déplacements en Guadeloupe. Un déplacement en bus prend 2 fois plus de temps qu'en voiture, 53 minutes en moyenne. Quant au vélo, c'est un mode de transport presque confidentiel en Guadeloupe. Il représente 2% des déplacements, sauf à la Désirade, 18%, ou aux Saintes, 7%. Ce qui montre qu'il y a de fortes disparités sur notre territoire, des disparités et des spécificités à prendre en compte pour affiner les politiques publiques de transport.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril, qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques que vous retrouvez bien sûr sur notre application RFI Pure Radio. À demain.